Et d'ergonomie. En fait, je m'appelle donc Denis Chen, je travaille à France Télécom Recherche et Développement en tant qu'ergonome, chef de projet aussi des fois. La tâche de vous parler d'ergonomie, c'est pas forcément très simple. Parce que c'est une sorte de métier qui est un petit peu à la frontière de plein d'autres. Donc le thème global, ça va être la conception ergonomique universelle, qui est une sorte de visée idéaliste. Et on va essayer de voir dans quelle mesure ça peut être plus ou moins rapproché. Alors déjà, par rapport à France Télécom R&D, c'est 3000 chercheurs, 1500 dans le monde, donc un peu partout. Sur le handicap, on n'est pas tant que ça. À 100%, on doit être 6 en tout, dont un ergo au moins. Heureusement, autour de ça, il y a une cellule qualité web qui est dans laquelle on a Stéphane Deschamps notamment, une équipe client handicapé. Bon, il y a Joséphine Azampano qui est présente ici avec Alice Joliveau, et une équipe insertion professionnelle de 3 personnes à peu près pour l'ensemble du groupe. Donc c'est des choses qui avancent parce qu'il faut se dire qu'il y a 2 3 ans il n'y avait pas tout ça. Donc il y a de la progression. Et il y a quand même plein de choses qui sont faites. Je vais pas vous en faire la liste. Je vais juste vous citer par rapport à recherche et développement quels sont nos objectifs. Donc c'est explorer de nouveaux moyens de communication, prototyper des services et terminaux qui sont innovants, puis ensuite soutenir les unités d'affaires et essayer de leur vendre ces innovations pour que eux-mêmes les vendent aux clients par la suite, les commercialisent. Et puis le plus dur de tout ça, c'est articuler la recherche fondamentale et le développement, parce qu'il y a toujours un gap entre les deux, entre des études qui vont être très très carrées et qui vont amener des résultats sur un sujet très précis, et puis la généralisation de cette étude. Et donc ça, c'est une problématique qui est assez constante en ergonomie. C'est autant en psychologie expérimentale, on peut avoir une méthode très structurée pour avoir des résultats. Dès qu'on touche à l'ergonomie, on touche à un ensemble de variabilités de contexte, d'usage, d'individus, d'environnement. Et les règles qu'on a définies dans un laboratoire ou dans une situation très précise, on peut pas toujours les généraliser aussi facilement. Alors, ma présentation en fait a 3 parties. La première, c'est je vais essayer de définir clairement ce qu'est l'ergonomie, parce qu'il y a souvent des a priori assez importants. Ensuite, on va creuser un petit peu la notion d'accessibilité, de conception universelle. Et puis, j'essaierai c'est plus une conclusion qu'une troisième partie, d'ouvrir des pistes sur la suite du web. Alors, l'ergonomie, de quoi s'agit-il? Je vais commencer par des définitions. À la base, c'est quelque chose qui a été mis en place à l'époque du travail à la chaîne pour faire en sorte que le travailleur puisse travailler plus longtemps, plus vite, mieux, qu'il s'abîme moins, on va dire. Donc ça, c'était la base. Bon, ça a pas mal évolué depuis. Le but étant maintenant plutôt d'améliorer le bien-être des gens. Aussi d'optimiser leur productivité. Oups. Alors, le principal point, c'est quand même que c'est une sorte de métier qui vise à faire en sorte que la technique serve à l'être humain. Pour ce faire, ça touche forcément toutes les situations de l'être humain. Alors autant l'ergonomie avant c'était essentiellement ergonomie physiologique, hein. Au début du travail à la chaîne, c'était la station debout, assis, etc. Donc par rapport à l'opposition. Et puis ça s'est étendu, les IHM sont arrivés, les interfaces machine. Et puis maintenant, le champ de l'ergonomie s'étend même à l'environnement collaboratif qui fait partie finalement de la situation aussi d'interaction avec une machine. Typiquement, quand vous êtes plusieurs à travailler dans un bureau sur un ordinateur, l'interface n'est pas le seul ordinateur. L'interface, c'est aussi vos collègues à qui vous pouvez poser des questions par-dessus l'écran, des choses comme ça. En fait, finalement, le champ est très très large. Du coup, ça donne une discipline où on a beaucoup de champs de connaissances nécessaires, donc des spécialisations. Je connais personne qui connaisse tous les champs de l'ergonomie, allant de sciences cognitives, physiologie, sociologie, linguistique, expérimentale, expérimentation, jusqu'à l'informatique. Voilà, bon, je passe un peu vite là-dessus. Alors, l'intérêt de l'ergonomie, c'est essentiellement, enfin c'est comme ça qu'on le présente aux décideurs, le fait que le coup de conception, on peut pondre du code et puis sortir une interface. Mais si cette interface-là ne convient pas à l'utilisateur, ben il va falloir refaire son code. Et au final, en moyenne, on s'aperçoit que 30 à 50% du coût des logiciels applicatifs, alors pour le web, je ne sais pas exactement, ben en fait, sont dus à des restructurations d'interface. Ou au fait que finalement, ben, il faut adapter des petits boutons, il faut changer carrément la procédure de navigation dans l'interface. Et donc au final, prendre un petit peu en amont, ça permet d'économiser tout ce temps de développement en plus. Donc l'objectif, bien sûr, c'est réduire les coûts. Quand on voit les services, bon là c'est un peu les services télécoms, il y a 80% des compléments de services et des facilités qui sont offertes sur les autocommutateurs, donc les services téléphoniques, qui ne sont pas utilisés. Parce que ils sont pas connus, ils sont pas faciles à utiliser, et finalement ce sont plein de fonctionnalités techniques qui existent, mais qui ne sont pas mises en valeur. Quand vous avez un machin comme ça qui est finalement plus puissant que mon ancien PC que j'ai gardé très longtemps, on s'aperçoit qu'il y a 5% des fonctions d'un téléphone mobile comme ça super puissant qui sont utilisées par Madame Michu ou Monsieur Michu aussi, pas de sexisme. C'est quand même assez étonnant de voir des produits qui sont aussi puissants et qui sont aussi peu utilisés, enfin au niveau des fonctionnalités. Pour le web, c'est pareil. Autant vous et moi qui sommes des familiers du web, on va pouvoir poser une requête avec trois mots-clés bien ciblés, puis trouver notre réponse dans les 3 minutes. Hein. Je suis sûr que tout le monde va y arriver. Vous demandez à Madame ou Monsieur Michu, non seulement ça sera pas au bout de 3 minutes, mais je doute fort qu'elle arrive à trouver la réponse. Donc il y a vraiment des problèmes vis-à-vis de l'accomplissement du potentiel du web ou d'autres dispositifs comme le téléphone. Enfin, dernier point, pourquoi l'ergonomie est quelque chose d'assez important, c'est que, alors déjà, il y avait les personnes handicapées, mais ce discours-là, il passait pas trop au niveau mass market. Maintenant, ce qui commence à beaucoup mieux passer, c'est que la population des personnes âgées est fortement croissante, et là, il commence à se poser la question de comment est-ce qu'on va adresser ce marché qui a de l'argent, du temps, enfin, voilà. Donc là, la clé économique, elle est là. Elle est sur le fait qu'on a une population vieillissante. Voilà, c'était des objectifs, des critères économiques. Les objectifs humains, je passe, c'est moins de fatigue au travail, éviter de perturber l'utilisateur avec des choix qui devraient pas lui être demandés. Éviter les confusions, les interrogations, ce que vous voulez quitter, annuler, peut-être, oui, enfin, des fois, on se demande vraiment, face à une interface, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que je fais retour? Ah là là, où est-ce que je vais retourner si je fais retour? Est-ce que je retourne à la home page? Ou est-ce que je retourne à l'étape précédente? Enfin, très très souvent, ce sont des petits cas, d'IHM qui sont pas trop bien faites et qui, en fait, perturbent complètement l'utilisateur. Voilà. Bon, il y a d'autres points, bien sûr, en dehors de l'efficacité, c'est la notion de convivialité, parce qu'autant dans la relation homme-homme, on arrive à s'auto-réguler, C'est-à-dire, quand on sent qu'on va un peu trop loin, on met un bémol et puis l'autre s'ajuste. Donc il y a une interaction qui se fait comme ça. Avec une machine, ça marche beaucoup moins bien. Et très rapidement, c'est l'utilisateur qui se sent insulté par la machine. Alors, on repassera sur l'aspect multimodal parce que ça fait, je vais fortement l'aborder dans la partie accessibilité. Mais c'est vrai que jusque-là, quand on parle d'interaction machine dans le cadre de l'ergonomie, hein, c'est essentiellement basé sur les critères de l'ergonomie visuelle. Et c'est justement cela qu'il faut dépasser. Je passe un peu. Alors, comme je disais, hein, on a plein d'innovations technologiques. Si vous faites de la veille, vous pouvez voir sortir des trucs innovants plusieurs par jour dans le monde. C'est incroyable. On a des produits, des services complexes. Et finalement, on a des utilisateurs qu'on peut appeler esclaves de l'innovation. Parce que on peut se poser, on n'est pas loin d'un problème philosophique, mais on peut se poser la question, est-ce que on vit mieux aujourd'hui, maintenant qu'on a des trucs comme ça, qu'on passe un temps fou à paramétrer, à bidouiller, à penser à éteindre, parce que non, c'est merde, machin, tout ça. Et est-ce que ça nous facilite la vie? Et ben actuellement, c'est pas si simple. Donc ça, c'est un objectif, on va dire, ultime. Ça peut être de sortir de l'innovation technologique pour aboutir à un gain sociétal, à un gain sur la qualité de vie. Alors forcément, dans cette assemblée, il y a beaucoup de développeurs, de gens qui aiment bien bidouiller leur machine, etc., qui passent un temps énorme, mais si on regarde l'ensemble du cadre de vie, finalement, la présence des machines nous contraigne plus qu'elle nous aide. Et on est plus en train d'essayer de contourner leurs contraintes que de profiter de leur assistance. Donc voilà, c'était le message un peu critique sur l'innovation technologique. Alors, par rapport au métier, normalement l'ergonome est le pont entre... ça c'est une citation de Jules Renard, je trouvais assez jolie, qui est... Donc l'ergonome est le pont entre l'utilisateur, que tout le monde croit connaître, le développeur, qui des fois croit connaître l'utilisateur, puisqu'il est lui-même utilisateur dans d'autres situations. On en a parlé hier, le marketeur, le décideur, et le communicant. Chacun a ses propres motivations, et ce ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que ce sont des métiers différents. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours facile de se comprendre d'un métier à l'autre. Alors forcément, je mets l'ergonome au centre. Généralement, c'est lui qui se prend les coups. Hein, parce que y a des choses comme ça qui se passent. C'est que pour accélérer le process de production industrielle, les marketeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà la culture de l'analyse sociologique et surtout de la quantification du nombre de clients qui font telle ou telle chose. Et ben donc le marketing va s'adresser directement aux clients, monte des focus group et tire les conclusions rapides. C'est un chemin assez rapide pour avancer sur quand on a besoin de sortir un service dans 15 jours après ou de renouveler son web très rapidement. Donc ça c'est une interrogation directe qui des fois fonctionne, mais des fois tombe complètement à côté de la plaque. Parce que, et là il n'y a que moi qui ai le droit de dire ça ici, peut-être Gérard qui est ergonome, je ne sais pas si on a d'autres. Parce qu'en fait, l'utilisateur, on peut pas lui faire confiance. C'est, et je dis bien, c'est un ergonome qui dit ça, parce que, des fois, il va vous exprimer son besoin, et c'est pas vraiment ce qu'il lui faut. Si vous faites un focus group, moi j'en ai déjà fait, enfin j'ai déjà plutôt assisté, un focus group où vous demandez aux gens de faire de la créativité sur les services de demain, sur le web, etc. Ils vont vous sortir des trucs, des petits avatars qui signent, des trucs animés, qui sont rigolos, qui sont amusants. Vous leur mettez ça entre les mains, jamais ils l'utiliseront. Donc, il faut pas toujours faire confiance à l'utilisateur. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas le consulter. Donc c'est pour ça que le raccourci marketing utilisateur, des fois, il est un petit peu extrême. Après, bien sûr, il y a aussi le raccourci développeur utilisateur, parce que, alors ça, je le contre-indique pas, Mais des fois, le raccourci est un peu rapide. De la même, c'est, la raison, c'est du même ordre. Hein, c'est qu'il n'y a pas compréhension exacte du besoin de l'utilisateur par rapport au besoin du développeur. On va voir juste après ce que je veux dire. Et enfin, ben, on a le court-circuit aussi habituel communiquant utilisateur où finalement, on a vu ça hier avec le flash et tout ça, court-circuit les contraintes du développeur et celles... Enfin, généralement, il n'y a pas d'ergonomie dans la discussion. Les contraintes du développeur et on affiche directement de la pub comme on veut, ça gigote et des choses comme ça. Donc voilà, chacun a ses propres motivations qui sont justes, qui sont vraies dans son métier. Et le tout, c'est quand même d'arriver à une sorte de compromis. Voilà, c'est plus une mission diplomatique ce métier-là, en fait. Alors je vais faire un petit zoom là sur la relation entre ergonome et développeur, parce que c'est plus ça qui me concerne. Donc là j'ai pris un exemple de d'input méthode. C'est un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière, donc je trouvais ça assez intéressant de remettre ça là. Un input méthode, donc c'est une méthode de saisie par reconnaissance d'écriture. Quelque chose qui devrait un jour arriver sur le web. Pour le développeur, il y a trois objets. C'est clair. Il a sa zone de saisie, il a une autre zone qui est sa zone de rendu de son moteur de reconnaissance d'écriture, qui lui dit « Ah, j'ai reconnu ça ». Et il a une troisième zone, le développeur, donc il a trois objets, mais la troisième zone, c'est bah, la zone de rendu graphique dans l'application. Le problème, c'est que l'utilisateur, lui, il a une zone. Et donc là, on a une sorte d'incompatibilité entre les objets du développeur, qui sont des objets techniques, et les objets de l'utilisateur, qui sont des objets, on appelle ça les objets de la tâche, les objets de son interaction. Parce que, alors pourquoi l'utilisateur, lui, il a qu'une zone? Parce que l'utilisateur, lui, il fait appel à ses références antérieures de manipulation d'objets. Et si on parle d'écriture, bon, c'est clair, la référence antérieure, c'est le crayon, le papier. Donc, en dehors du crayon, j'ai un seul objet, c'est la feuille. Et la feuille, dedans, j'écris, je relis ce que j'ai écrit, et voilà. Donc là, je passe par un écran ou quelque chose comme ça, mais dans la tête de l'utilisateur, il y a un seul objet. Donc là, on a deux visions différentes sur une interaction, et le tout, c'est... Alors, c'est pas forcément de développer ce qui est sur l'écran de droite, mais tout qui est dans un seul objet, c'est d'arriver à un compromis entre... le coût de développement de l'interface qui est souvent déjà faite quand on vous la montre. Donc le coût de redéveloppement de ça, et puis d'essayer de tendre vers la vue de l'utilisateur, dans la mesure du possible. Alors, les actions ergonomiques qui peuvent être faites, bon, je vais passer peut-être rapidement là-dessus, je sais pas. Ça va donc des études très amont, l'analyse des besoins. Par exemple, un site de e-commerce, ben on va se renseigner sur comment les gens font les courses habituellement dans la vraie vie. Et puis à partir de ça, on peut décliner une interface de site de e-commerce. Les expertises, qui sont des sortes d'analyses un peu rapides par des experts. Il y a des tests de validation. Donc là, on prend 20 personnes, on les fait passer sur une interface, et puis on regarde ce qui a bloqué, ce qui n'a pas bloqué, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Il y a le suivi de conception, la spécification, l'aide au maquettage, prototypage, et l'harmonisation entre différentes IHM. Ça, c'est différentes activités qui sont habituellement faites au sein d'une équipe d'ergonomes. Ça, c'est la vision traditionnelle du process. Alors, je le décris en première phase, étude d'usage, seconde, étude marketing, ensuite étude économique, l'ingénierie et enfin l'ergonomie. Alors, j'ai bien marqué, hein, j'ai pas oublié, inadapté. Ça, c'est plus comme ça qu'il faut raisonner aujourd'hui, parce que en raisonnant comme ça, l'ergo, il arrive à la fin du travail et c'est pour ça aussi souvent qu'il a très mauvaise presse, et il dit ah, « c'est nul ». Forcément, aller dire ça à quelqu'un qui a mis ses tripes dans un logiciel, ça passe très mal. Et puis en plus, on arrive en fin de budget, fin de deadline. Enfin bon, il faut tout refaire en 15 jours. Ce genre de situation, ça arrive encore très très souvent, même chez nous. Et c'est très dommageable. Alors voilà, une vision un peu plus fine de ce que ce devrait être aujourd'hui, d'un cadre conception qui est centré utilisateur. En fait, de ce que j'ai décrit tout à l'heure sur les tâches, de l'ergonome, vous avez toutes les actions d'évaluation, qui sont juste dire « ouais, ça va, non, ça va pas, ah, faut changer ci, faut changer ça ». Vous avez la phase d'analyse de l'activité, qui est la plus amont. Et puis, vous avez les méthodes qui sont liées à toute la conception, soit une décomposition d'objets, enfin, plein de façons de faire. Et en fait, ces différentes tâches hein, peuvent se répartir en fonction du niveau de développement, du niveau dans lequel on est au niveau du processus. Et ce niveau, bah, c'est soit on est à la phase de créativité, soit on est à la phase autour du prototypage, soit on est à la phase qui est plutôt limite sortie, on est en train de faire le développement final. En fait, ces différentes interventions d'ergonome sont ce qu'on appelle rentrer dans un cycle itératif de conception, ce qui permet, si on intervient toutes les phases, de s'ajuster au mieux au fur et à mesure, ce qui forcément à terme engendre moins de modifications. Et normalement, si un projet est suivi du début à la fin par un ergonome, eh bien, vous avez une validation au niveau test final qui est beaucoup moins coûteuse, hein, qui est beaucoup plus valide que si vous faites appel l'ergonome juste à la fin. Voilà. Ça, c'était pour une présentation du métier de l'ergonome. Maintenant, je vais passer à l'accessibilité. Alors. Alors bon, jusque là, je disais tout à l'heure, l'ergonomie c'est essentiellement centré sur l'activité visuelle de l'être humain en face d'une machine. Et en fait, pour avancer, il faut regarder un petit peu différemment, et c'est généralement ce qui fait avancer la science. On a la tradition de croire que la science c'est absolu. En fait, il faut bien être conscient que la science, la vérité vraie, n'existe pas. La science, c'est un processus de validation suivant une méthode qu'on appelle la méthode expérimentale. Ce n'est que ça. On peut dire on recherche une vérité avec un grand V, mais ce n'est qu'un processus. Il faut savoir aussi, c'est qu'il y a au moins 70% des expérimentations scientifiques qui sont faussées. Mais c'est pas un problème en soi, c'est le mécanisme de rebondir sur une expé précédente qui fait avancer. Et en fait, les grandes évolutions scientifiques, que ce soit autour d'Einstein ou Darwin, sont liées à des changements de point de vue. Et changer de point de vue en regardant les interfaces homme-machine en partant du point de vue des personnes handicapées, donc on va dire un autre point de vue que le point de vue visuel, visuel avec pointage souris. En partant d'un autre point de vue, eh ben, a priori, on devrait avancer beaucoup plus vite sur l'interaction machine. Alors ça, c'est joli de le dire. Je vais vous éclairer un peu sur la définition de handicap. Donc, je sais pas si tout le monde la connaît, c'est pour ça. Il faut bien distinguer trois niveaux. Le niveau de la déficience, de l'incapacité environnementale et du désavantage. Le désavantage étant le niveau où cela induit un dommage au niveau sociétal. Et finalement, la situation de handicap est liée à un environnement défavorable. C'est ça qu'il faut retenir de cette définition. Et l'environnement, ça peut être l'environnement de votre interface web, ça peut être l'environnement du séminaire. Si vous avez prévu dans votre environnement d'adapter cet environnement aux personnes qui ont certaines particularités, alors il n'y a pas de situation de handicap. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, non seulement la situation, mais en plus, on peut même appeler ça un acte de non-civisme. Alors, je passe parce que c'est votre cours. La position de l'ergonomie et de l'accessibilité, parce que c'était pas très clair. On a beaucoup parlé d'accessibilité hier, mais c'est vrai qu'on a du mal à définir la frontière. Est-ce qu'on parle d'utilisabilité? Est-ce qu'on parle d'adaptabilité des outils techniques? Vu d'un ergonome, la position de l'accessibilité, pour moi, c'est tout simplement de l'ergonomie étendue à tout type d'utilisateur. Ça peut inclure les aides techniques comme problématique, mais c'est avant tout, bah, finalement, de l'ergonomie. La question de fond sur les différentes vues qui peuvent être décrites, c'est de savoir si on considère tous les utilisateurs ou la plupart. En gros, est-ce qu'on fait de l'ergonomie de masse? Je vais répondre, on pourrait dire ergonomie grand public, je vais répondre à la majorité, puis de toute façon, les autres, c'est trop compliqué, pas la peine, ça coûte trop cher. Ou est-ce que... je ne sais pas où est-ce que, excusez-moi. En fait, cette question, elle est mal posée, parce que c'est pas par rapport aux utilisateurs qu'il faut se poser la question, c'est par rapport aux façons qu'on a d'interagir avec le système. Et là, ça décroît énormément. Ces modes d'interaction, comme je les ai notés, voilà, ces modes d'interaction, on peut les envisager dans le cadre d'une IHM qui est modulaire. Alors, ça va pas être 50 types d'utilisateurs différents, mais juste quelques modes qui vont s'étaler sur une échelle qui va d'une interaction d'ordre séquentiel à une interaction parallèle. Alors, ça veut dire quoi? Séquentiel, ça veut dire que les items vous arrivent les uns après les autres. Bah, déjà, là-dedans, on peut regrouper une interface uniquement vocale pour les personnes non-voyantes, ils sont en mode séquentiel, mais également une interface visuelle pour les personnes extrêmement handicapées et motrices, qui ne peuvent qu'agir quand le focus avance, quoi. Donc ils ne peuvent pas pointer. Dans les deux cas, on a une IHM séquentielle. Ça fait déjà deux cas qui se rassemblent en termes de mode d'interaction. Et parallèle, et ben, c'est tout simplement l'utilisation, par exemple, que vous avez de la souris, donc c'est du visuel pointage, ça c'est un certain nombre de parallèles. Et l'autre échelle, c'est un focus automatique par rapport à un pointage, donc ça c'est une échelle d'action, où en fait, ben, on peut décider, alors, un focus automatique c'est quoi? Ça va être, ben, l'utilisateur attend que l'interface lui propose des trucs, et en fait, quand le moment est venu, il dit « Ok, c'est bon. Et il n'a que ça à dire. En gros, il n'a qu'une action à faire. On est dans le mode le plus contraint des actionneurs, des façons d'agir. Typiquement, c'est le mode à pipette buccale, le mode à contacteur, des choses comme ça, où les gens ne peuvent faire qu'une seule action. Et puis, le mode pointage, qui est le mode où on peut utiliser tout son corps. Alors, la grosse contrainte, c'est que rassembler tous ces modes au sein d'une seule et même interface, c'est pas forcément simple, et il faut surtout qu'ils restent cohérents entre eux, parce que ben il n'est pas question, par exemple, de présenter une interface à quelqu'un en mode visuel et à quelqu'un d'autre dans un autre mode, et que les objets qui sont dans l'un ou l'autre ne correspondent pas. Parce qu'autrement, très rapidement, on aura des problèmes de l'ordre où les deux personnes voudront interagir sur la même interface, et ben elles s'y retrouveront pas. Ah bon, toi, t'as tel objet à tel endroit, ben moi j'ai jamais vu. Donc il faut vraiment qu'on ait une correspondance en termes d'objets d'interface entre les deux utilisateurs. Ça, je l'ai évoqué un peu. Donc on a sur l'échelle de l'action, on peut évaluer, on peut définir plusieurs niveaux d'actionneurs qui vont de 1 jusqu'à 5, voire à autant de raccourcis que vous voulez, qu'ils soient gestuels ou qu'ils soient de raccourcis clavier. Pareil sur le canal de la perception, dans l'autre sens, je reçois les informations du système, ben on peut imaginer autant d'articulations qu'on veut entre les trois modalités perceptives de l'être humain. J'ai mis vocal, c'est très fort, c'est audio, pardon. Qui sont donc haptiques, c'est pour le toucher, on verra un petit peu après, je vous donne des exemples. Donc toutes ces combinaisons, ben, il n'y en a pas tant que ça, et on doit pouvoir en fait définir une interface qui recoupe tout ça. Alors je vous montre un exemple qu'on a développé avec avec Michel Ouel, qui est quelque part dans la salle, où on a essayé de regrouper tous ces principes dans une IHM destinée à la télé. Donc c'est un proto. Où l'idée c'était de regrouper un petit peu tout ça ensemble et de voir s'il était possible de faire quelque chose. Parce que dans le cadre du design for all, de la conception universelle, le gros problème c'est que quand on commence à aborder la chose, on envisage tellement de cas, on se dit voilà, pas possible. Et si on fait pas un proto pour montrer aux décideurs c'est possible, on peut le faire, il faut travailler dessus, on a beaucoup de mal à convaincre. Encore plus que quand on adresse chaque handicap séparément, ce qui est déjà pas facile à faire. Donc ça, c'est l'interface de base, on va dire. Alors, on n'est pas très loin du web, hein, parce que finalement, c'est un web service, TV sur ADSL. Par rapport aux difficultés auditives, ça change pas énormément de choses au niveau de l'interface visuelle, si ce n'est que on s'arrange pour avoir une zone de sous-titrage quand c'est nécessaire, quand il y a du film. Sinon, les autres équipements sont essentiellement des équipements d'ordre audio, qui sont liés aux boucles magnétiques et aux parleurs. Par contre, dès qu'on aborde le problème de la déficience visuelle, ben, on a besoin de la vocalisation. On a besoin de jouer sur les paramètres de la vocalisation. Ça, c'est des choses qu'on apprend à partir de l'analyse des besoins de personnes handicapées visuelles, qui sont des modes, finalement, qui sont fort intéressants pour n'importe qui. On a besoin de faire la part des choses entre les différents objets dans l'interface. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un titre, il y a une sorte de menu contextuel, puis en bas de la page, on a une sorte de menu générique de navigation, avec retour, accueil, quitter, des choses comme ça. En fait, c'est des objets différents, puis on a le contenu, bien sûr. Et ces objets différents, bah, il faut aider à les différencier auditivement. Donc, une des bonnes façons, c'est de faire varier les voix. On est en navigation séquentielle dans ce cas-là. Et puis, il faut aussi rajouter des informations, comme on a sur le web de façon standard. Hein. Si je suis à l'accueil, j'ai envie de le savoir. Mais si j'y suis pas, faut qu'on m'indique le chemin pour y retourner, ou au moins qu'on m'indique d'où je viens. Et puis les informations inutiles masquées, je viens juste là. Ben. Autant le logo, si vous mettez à vocaliser ça dans un mode non-voyant, eh ben vous avez un gros problème, c'est que ça vient carrément empiéter sur l'interaction. C'est pas pertinent. Donc, faut pas le faire disparaître complètement, parce que tout le monde a le droit à la pub, au logo, des choses comme ça. Mais ces informations utiles, on peut se donner le droit de les supprimer à un niveau inférieur de l'interface. Ben, base vision, bon, tous les paramètres visuels qu'on peut changer. Fond jaune, écriture noire, fond noir, écriture jaune, fond bleu, écriture blanche. Enfin, voilà. Après, on peut avoir toutes les variabilités qu'on veut. Là, vous avez quelque chose en plus, c'est le mode zoom, qui est intégré dynamiquement là-dedans, qui en fait permet de zoomer le focus sur lequel on est, avec des petits indicateurs visuels sur la nature de l'objet qui zoome. Par rapport à la langue des signes, le grand oublié des analyses de besoins sur l'handicap, ben en fait, c'est essentiellement un problème de langue, hein, quand on considère les personnes sourdes signantes, qui, je rappelle, ne lisent pas le français bien souvent. C'est pas des problèmes éducatifs essentiellement, dans une autre langue que la leur. Et donc là, on a besoin de présentations synchronisées de langue des signes et de texte. Alors, un des éléments qu'on a mis en place là, c'est justement que le focus ne soit jamais trop éloigné de l'interprète. Comme ça, on n'a pas à s'écarter les yeux entre une zone, ce qui est souvent fait sur le web, entre une zone où on a un personnage qui signe et puis une zone où on a mis son focus. Là, la personne qui signe On la retrouve au-dessus de la barre de navigation quand on se déplace. Et puis enfin, le dernier mode qu'on a testé, avec l'action mono-bouton, on a, bon, c'est un mode défilement, ce que j'évoquais tout à l'heure. On a des boucles et des sous-boucles. Donc, par exemple, on rentre dans la sous-boucle. Et si on veut sortir de cette sous-boucle de menu, eh bien, on clique sur l'icône qui correspond au moment voulu. Je vais le dire. Je vais le dire, ça va voler. Mais j'attendais la fin. Moi, j'y suis. Presque à la fin. Donc, voilà. La question du lecteur d'écran typiquement posée, c'est finalement de faire du rendu. Alors, moi, je pose vraiment la question, est-ce qu'il faut vraiment un logiciel spécifique pour les personnes handicapées? Est-ce qu'il faut vraiment un navigateur spécifique? Parce que on déporte les problèmes sur ZoomText, JAWS, et on essaye de s'interconnecter avec ces logiciels-là. Et pourquoi ce ne sont pas les navigateurs eux-mêmes qui font cette adaptation? Parce que ça serait nettement plus dans un objectif de marché de masse qui absorberait en fait tous ces frais supplémentaires de technologie, de synthèse vocale, de éventuellement de langage signé, de choses comme ça. Ça serait dans un marché de masse, ça serait noyé, et donc finalement tout le monde cotiserait à ces améliorations et profiterait de ces améliorations. Mais pour l'instant, on est dans une configuration où on a essentiellement les matériels spécifiques de présentation qui sont encore à part et avec qui il faut gérer l'historique. C'est surtout ça qui est difficile. Alors autant en termes de présentation d'informations qu'en termes d'action. Alors c'est clair qu'en termes d'action, on ne pourra pas restreindre dans le software tous les moyens d'interaction. Typiquement, autant on peut mettre la reco vocale au niveau du soft, autant un contacteur, bah, il faudra toujours une prise jack ou quelque chose comme ça, une prise USB pour pouvoir brancher son contacteur. Donc l'objectif, c'est quand même de faire remonter un maximum des critères d'accessibilité au niveau des navigateurs, au niveau des éléments qui présentent le contenu. Alors pour répondre à ta question, ce que vous avez vu là, c'est du flash à 100%, et ça marche très bien. Pour les détails techniques, il faudra voir Michel. Juste 3 secondes. Ma vision un petit peu de la suite du web. Donc on l'a évoqué hier, la mise en place de l'accessibilité de règles qui seront définies et puis mises en place, hein, si ça arrive un jour, seront soumises à une évaluation stricte et à un contrôle. Donc ça, il faudra clairement avoir des outils qui permettent de faire ces contrôles. Aujourd'hui, il y a 50 000 outils qui existent, dont celui-ci, qui n'est pas parfait non plus, qui vérifie des règles, mais les règles du WAI, parce qu'il n'y a pas que ça à vérifier, sont incomplètes. Donc il faut les compléter, d'une part, donc ça c'est un gros travail qui reste à faire, parce que sur certaines modalités, il y a aujourd'hui 0 règle. Et puis, ensuite, il faudra des outils qui soient suffisamment souples pour pouvoir en intégrer de nouvelles aussi. Au-delà du web, j'ai un petit peu causé de la TV, on a un peu causé du mobile hier, il y aura d'autres médias, et il faudra que ça s'adapte. Un autre point sur lequel je vais revenir dans 30 secondes, c'est l'appropriation du contenu par l'utilisateur. Ça, c'est pas encore passé vraiment dans les mœurs que la notion de document qu'on a en tête, le document c'est un truc que j'ai qui ne change pas, bah finalement la notion de document elle est en train de disparaître complètement parce que le pouvoir d'édition il a changé de main. Le pouvoir d'édition il est chez l'utilisateur. Et finalement c'est lui qui fait le contenu. Vous allez voir ce que ça implique juste après. Et enfin, là je voulais évoquer des modalités qui sont pas abordées aujourd'hui. L'odeur, ça a été évoqué hier aussi. On a dû faire ça il y a 2-3 ans en FT. C'est deux petites enceintes comme ça qui balancent des odeurs. C'est rigolo, 5 minutes. Et après, enfin, il y a un gros problème de diffusion, quoi. Donc, c'est des trucs qui peuvent apparaître de façon plus prégnante. Les interfaces cerveau-machine, on en entend beaucoup parler en ce moment. La commande oculaire, qui existe depuis longtemps dans le monde du handicap, mais qui va peut-être se réveiller un jour chez le commun des mortels. Et puis, l'aptique que j'évoquais tout à l'heure, qui est en fait... l'aptique, c'est tout ce qui est lié à votre corps, donc aussi bien gestuel que kinesthésique, et que tactile, donc tout ce qui est lié au toucher. Bah, typiquement, là, vous avez un système qui fournit des retours d'efforts, qui vous permet de sentir des objets virtuels. Ça va arriver sur Internet un jour, et derrière ces éléments, il y a du contenu. Et ce contenu n'a pas grand-chose à voir par rapport au contenu qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra prendre en compte. Ça, c'est pour l'interaction gestuelle. Là, c'est des picots tactiles, sur lesquels on travaille avec l'Université de Compiègne, qui sont utilisés dans le cadre de personnes non-voyantes, mais qui sont des sources d'interaction en machine particulièrement intéressantes pour autre chose que simplement lire du braille, pour sentir vraiment des objets dans l'espace. On a évoqué la reconnaissance d'écriture quand je vous ai parlé de l'exemple sur une petite méthode. Voilà, donc pour moi le principal enjeu des interfaces de demain, je retourne sur la caractérisation par l'utilisateur du contenu, c'est que c'est lui qui a le pouvoir de conception sur le contenu, proprement dit, au niveau du web. Et c'est pas simplement en enrichissant avec des métadonnées, ce que j'ai cru comprendre du WP.org, qu'on va pouvoir résoudre cette question-là. Alors, je m'explique. Les métadonnées, en fait, c'est bien de faire de la catégorisation, d'essayer de catégoriser les choses, mais très rapidement, ça explose. Parce que, dans l'histoire de la catégorisation en psychologie expérimentale, bon, on a commencé comme ça, on a fait les ontologies, et puis on a dit, bon voilà, ça c'est un animal, alors voilà, j'interroge des sujets sur les animaux familiers. Ah, c'est bizarre, il y a des animaux familiers qui se retrouvent dans deux catégories. Et donc il y a eu toute une évolution comme ça sur l'analyse catégorielle, où on s'aperçoit que finalement, c'est plus le contexte qui définit les catégories. C'est pas des catégories absolues, peut-être pour les catégories scientifiques, comme les animaux, des choses comme ça, où on apprend ça à l'école, mais c'est le contexte qui définit les catégories. Et ce contexte, il vient d'où ? Ben, ce contexte, il vient de l'interaction. Parce que au niveau d'un système, il n'y a que des signes. Il aurait beau mettre des mots dedans, ce sera que des signes. Et le sens, il est chez l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui donne du sens aux choses. Et donc c'est dans son interaction avec le système qu'il va créer une ontologie particulière. Et il y aura autant d'ontologie, enfin d'appartenance ontologique, que d'utilisateurs quasiment. Si je vous parle d'un chat, eh ben, moi, en tête, là, j'ai un chat. Vous n'avez pas le même. Et ça dépend du chat auquel vous pensez, de l'usage que vous avez eu avec les chats, etc. Donc c'est dans l'interaction, je sais pas, peut-être ça vous évoque des sentiments de violence ou quoi, mais... Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est dans l'interaction, c'est dans l'activité que on va pouvoir catégoriser. Et ça amène à des travaux qu'on fait avec Gérard qui est là. C'est d'attribuer des rôles aux utilisateurs. J'ai fini, c'est le dernier. C'est d'attribuer des rôles à l'utilisateur qui sont définis par son interactivité avec le système. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions.
D'accord. Oui, je posais juste la question du contexte dans lequel on voyait cet écran, parce que effectivement, le fait qu'on le voit dans le cadre, enfin qu'on le voit nous, dans le cadre d'un navigateur ou pas, l'apparition de boutons précédents, suivants, tout ça, comme on utilise de plus en plus notre navigateur effectivement comme une plateforme d'accès à plein de services. Je veux dire, dans le cadre d'une utilisation normale, j'étais un peu perdu, je savais pas où j'étais. Parce que je suis chez un autre fournisseur de services de télévision et ça apparaît dans un contexte totalement différent chez moi. Et j'avais là c'était plus une, vous expliquer pourquoi je me suis permis de l'ouvrir. Autrement, j'avais une deuxième question. Est-ce que vous pratiquez en fait, j'ai souvent eu l'occasion de voir des ergonomes parler de développement itératif, c'est-à-dire des développements progressifs, de soumettre des interfaces qui sont très rapidement développées et qui, avec des boucles de présentation à des utilisateurs et des retours de la part d'utilisateurs et d'observation de l'utilisateur aussi, de faire des développements successifs pour améliorer progressivement l'interface.
Avant, j'étais dans un labo d'ergonomes, donc avec une dizaine d'ergonomes sur Paris. Et une des motivations de mon déplacement, ça a été notamment de me rapprocher d'une équipe de développeurs pour faire ce genre de choses, pour être plus proche, parce qu'il n'y a pas de secret. Hein, il faut être dans des bureaux à côté, et puis il faut aller boire le café ensemble pour arriver à avoir des boucles de développement itératif. Quoi. C'est pas en étant appelé par un chef de projet pour contribuer avec tel développeur sur une application particulière que ça marche toujours. Il faut qu'il y ait une certaine proximité entre les individus. Donc oui, développement itératif, c'est la clé. Mais c'est pas tant utilisé que ça.
Bonjour, François Kramer, APN. J'avais une question par rapport, on a vu l'interface à l'écran, mais est-ce que vous avez travaillé sur, en Elgis avec une télécommande, et cette télécommande-là, est-ce qu'il y a une télécommande spécifique pour les personnes malvoyantes, handicapées, physiques?
En parallèle de ce travail, en fait, là j'ai zappé la télécommande pour avoir le temps de faire le tour. En parallèle de ce travail sur la présentation via l'écran et l'audio, on a travaillé sur un propos de télécommande qui correspond pile poil aux besoins qu'on a là, donc avec un connecteur, avec reco vocal, commande vocale, quoi. Voilà, avec possibilité d'avoir sa boucle magnétique, etc. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que pour moi, ça, c'est un navigateur. Ça passe par une set-top box, ça s'affiche. Voilà, j'ai le service. Tout le monde a le service. Et il n'y a pas de notion de frais supplémentaires. C'est que les coûts supplémentaires liés à l'intégration de synthèse vocale, de reco-vocale, etc., bah, finalement, si on les vend à tous les utilisateurs par défaut, eh bien, on amortit considérablement le coût, on propose de l'innovation, et puis finalement, on va avoir des utilisateurs qui vont y trouver leur compte. Je donne un exemple de ça. Le mode défilement qui est le plus contraignant de tous, où on a des items qui défilent et puis on doit attendre que ça arrive sur le bon, puis on fait bingo, c'est celui-là que je veux, puis on attend, on rentre dans une boucle, on fait bingo. Pour la télé, c'est génial. Bien, vous êtes en train de comater et vous avez pas envie, comme avec tous les players de DVD, tous ces machins-là, on est là, il faut que j'aille à droite ou à gauche, non, il faut aller à gauche pour avoir l'item suivant. On est encore dans une logique qui est en semi-pointage, et c'est pas du tout adapté à l'utilisation télévisuelle. La télé, si j'ai une interface défilante, c'est très très reposant. J'ai pas à m'investir dans l'interaction plus que ça. Alors je dis pas que l'interaction en mode défilement, c'est l'idéal pour tout type d'interface. Là on est dans un contexte particulier, c'est parce que c'est la télé, c'est parce que je suis en train de manger du popcorn, etc., que j'ai plus de webkit disponible pour appuyer sur le bouton. Et voilà. Mais on est vraiment dans un contexte particulier. Et ça, c'est un avantage. Si on offre un service comme ça, avec toutes les options à tout le monde, c'est un avantage que les gens vont y trouver. Et les gens qui ne sont pas handicapés.
Souvent, quand on définit les interfaces, on parle de ce qu'on voit, c'est-à-dire du front-end. Mais très rarement, on parle de ce qui est au back-end. Je voulais savoir si le travail de l'ergonomie s'arrêtait seulement sur l'interface visuelle, mais si ça avait pas des influences aussi sur la façon d'organiser son service et la conception du service au back-end.
Certes. Quand je parlais tout à l'heure de processus de conception, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est généralement quand on arrive en fin de course, on négocie. Mais quand on est au début, je me fais un point d'honneur à poser des specs où tout est possible. Et après, on négocie au niveau de la technique, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met pas en avant. Donc, typiquement, là, ce qui est sorti de l'étude technique de faisabilité, c'est que les images vidéo pour la langue des signes, c'était dur d'avoir ça sur le serveur tout là-bas. Donc ça veut dire, bon, il faut un petit disque dur sur la set-top box. C'est clair. Il faut que, ben, quand je choisis ce profil-là, j'ai quelques secondes, j'attends, ok, ça me télécharge toutes mes vidéos signées, et elles vont se jouer en local, parce que j'ai besoin d'une interactivité. Donc ça, c'est une contrainte que moi je vais poser, c'est que je veux avoir une réponse immédiate de l'interface. Donc si à chaque fois que je clique, il faut que j'attende 30 secondes pour que la prochaine vidéo signée arrive, ça va pas du tout. Donc oui, ça a des conséquences sur la suite, mais ça m'en... je l'aurais pas fait tout seul. C'est des équipes techniques qui m'ont dit « Oulala, t'es fou, pas de vidéo là. On peut pas, il faut mettre ça sur la set-top box. » Eh ben, ok, vous mettez un disque dur sur la set-top box. Ça fait une recommandation technique incontournable.
Merci. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. Vous pouvez applaudir Denis. Pour les personnes qui sont sur les strapontins, on vous invite.